Le journal, Olivier Bénis, bonsoir.
Bonsoir à toutes et à tous. Pino K.O., le cycliste français 5e au classement général et un temps favori, a dû quitter le Tour de France lors de la 19e étape tout à l'heure. Un coup dur pour les Français, vous entendrez la déception de son club de cœur. On reviendra aussi plus largement sur l'étape du jour, elle-même interrompue à cause des intempéries et qui a coûté son maillot jaune à Julian Alaphilippe. Ce sera dans le journal du Tour à la fin de cette édition, avant justement une édition spéciale du Téléphone Sonne avec vous Yves Decamp.
Eh oui, vous venez d'en parler, ce Tour 2019 n'aura pas été tout à fait comme les autres malgré les déconvenues de la journée. Il aura été marqué notamment par un retour au sommet des Français, alors à deux jours de l'arrivée sur les champs. Questions et commentaires sur la grande boucle 01 45 24 7000.
Jacques Toubon demande lui à Christophe Castaner de se poser sérieusement des questions sur la pertinence des GMD, les grenades de désencerclement. Le défenseur des droits les trouve trop répandues et trop dangereuses. Plus d'une centaine de migrants morts en Méditerranée, à peu près autant envoyés dans des centres de détention libyens. Nous reviendrons aussi dans ce journal sur ce qui pourrait être la pire catastrophe en mer Méditerranée de cette année. Retour enfin sur les finances de l'État. Édouard Philippe recevait aujourd'hui trois de ses ministres pour trouver 3 milliards d'euros qui manquent pour boucler le budget 2020. C'est un abandon qui fait mal à vivre et à voir. Thibaut Pinot a jeté l'éponge tout à l'heure sur la 19e étape du Tour de France en début d'après-midi, alors même qu'il pouvait encore espérer monter sur le podium sur les Champs-Élysées dans deux petits jours. Mais parfois c'est le corps qui lâche et en l'espèce sa cuisse gauche, victime d'une lésion musculaire. La douleur était donc trop forte pour le cycliste français et cette douleur, ses plus grands supporters l'ont ressenti aussi. Les membres du CC Étup, le club de cyclisme formateur du Franc-Comtois, tous s'étaient donné rendez-vous à Maté dans le Doubs pour suivre la course dans un magasin de vélos et ils en avaient les larmes aux yeux, écoutez-les.
C'était sûr. Il est allé jusqu'au bout de la souffrance, mais oh, cette image-là, ça c'est terrible. Oh pauvre Thibaut, ça me fait mal au ventre.
Il a pris un coup sur le crâne. Hein. Incroyable.
C'est pas juste parce que c'est toujours physique, c'est pas un combat à la régulière, quoi. C'est pas, on perd pas face à plus fort que soi, on perd face aux aléas de la santé ou contre lesquels il peut rien faire, quoi. C'est ça qui est terrible. C'est la malédiction qui pèse sur lui, je sais pas pourquoi, mais il le mérite pas en tout cas.
On va continuer à le soutenir pour qu'il reparte de plus belle après, quoi. On a le moral à zéro, là, tous.
C'est les tripes de la tristesse et parfois c'est les tripes du bonheur. Et il nous a tellement apporté des tripes du bonheur que ça nous fait mal, quoi.
Des réactions recueillies par Émilie Pou de France Bleu, Belfort Montbéliard. On reviendra plus largement sur cette étape du Tour de France à la fin de ce journal. Les grenades à main de désencerclement ou GMD dans le viseur du défenseur des droits. Il interpelle aujourd'hui le ministère de l'Intérieur sur l'utilisation de ces grenades qui projettent des galets en caoutchouc à haute vitesse dans un rayon de 30 mètres. Il s'interroge notamment sur leur pertinence. Jacques Toubon dénonce déjà depuis 2 ans les lanceurs de balles de défense, les grenades lacrymogènes GLIF-4. Il y ajoute cette troisième arme à l'origine de graves blessures, Sophie Parmentier.
Oui, le défenseur des droits qui a observé les dangers de cette grenade à main de désencerclement depuis 2016, depuis qu'un homme s'était retrouvé grièvement blessé à la tête à la fin d'une manifestation contre la loi travail. À l'époque, Jacques Toubon s'était auto-saisi, inquiet des ravages que pouvait causer une telle grenade qui avait explosé au pied du manifestant blessé, tombé instantanément, rappelle aujourd'hui le défenseur des droits. Jacques Toubon ajoute que le policier qui avait à l'époque lancé cette grenade aurait pu ne pas le faire puisqu'il n'était, selon lui, menacé par aucune agression ou tentative d'agression. Or, cette grenade ne doit légalement être utilisée qu'en cas de danger imminent pour disperser un attroupement après sommation ou réprimer sans sommation des violences contre les forces de l'ordre. Jacques Toubon, ex-garde des Sceaux, recommande aujourd'hui solennellement au ministre de l'Intérieur d'engager, je cite, une réflexion approfondie sur la pertinence de cette arme pour les opérations de maintien de l'ordre. Il souligne que cette arme est susceptible de blesser aussi grièvement des fonctionnaires de police. Le ministère de l'Intérieur accuse réception du courrier du défenseur des droits, courrier en cours d'analyse, fait savoir ce soir la place Beauvau.
Merci Sophie Parmentier. C'est une image qui avait fait le tour des réseaux sociaux. 151 jeunes à genoux, mains sur la tête ou menottés dans le dos en marge d'une manifestation de lycéens à Mantes-la-Jolie. L'enquête préliminaire de l'IGPN, la police des polices, vient d'être classée sans suite selon le parquet de Nanterre. La procureure estime que ces mesures étaient justifiées par le contexte exceptionnel de violences urbaines graves et par le nombre de personnes devant être conduites dans les locaux de la police. Les avocats des plaignants avaient, eux, déposé une plainte avec constitution de partie civile le 6 mai, une seconde procédure qui est, elle, toujours en cours à l'heure actuelle. 1400 personnes ont défilé cet après-midi en hommage à Mamoudou Barry, ce jeune enseignant-chercheur guinéen de 31 ans, tué en fin de semaine dernière près de Rouen, en pleine rue, lors d'une violente agression. Parmi les manifestants qui demandent à ce que toute la lumière soit faite sur les circonstances de cette mort, environ 300 membres de la communauté guinéenne d'Île-de-France. Les proches de la victime qualifient l'agression de raciste. Un suspect a été arrêté en début de semaine. Il présente, on le rappelle, des antécédents psychiatriques et a été hospitalisé. C'est sans doute la pire tragédie en mer Méditerranée depuis le début de l'année, selon l'ONU, même si on ne connaît pas encore totalement le bilan humain. Le naufrage hier de plusieurs embarcations au large des côtes libyennes, à bord des hommes, des femmes, des enfants et plus de 100 disparus, très certainement morts en mer. Les dizaines de survivants, eux, ne sont pas tirés d'affaire pour autant, destinés à être envoyés dans des centres de détention libyens. Et il n'y aura vraisemblablement pas d'opération de recherche en haute mer pour retrouver les victimes. Valérie Crova.
Combien sont-ils ces migrants qui ont péri hier dans la Méditerranée, comme ces 426 autres personnes depuis le début de l'année ? Leur nombre exact restera sûrement inconnu tant il est difficile de savoir précisément combien avaient pris place à bord des embarcations de fortune qui ont sombré. En état de choc, épuisés, les rescapés ne sont pas en mesure de répondre à des questions. Il faudra donc attendre que la mer rende les corps afin d'avoir une idée plus précise du nombre des victimes. Pour ceux qui ont survécu, commence un autre calvaire après leur fuite et leur naufrage. Ils attendent désormais d'être transférés dans des centres de détention en Libye, pays en guerre, des centres surchargés où s'entassent déjà plus de 5000 migrants soumis à toutes sortes d'abus, viols, torture, extorsion et où l'on meurt de tuberculose. Certains y sont depuis 2 ans. Les migrants ou les damnés de la mer dont personne ne veut.
Et la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, réclame aujourd'hui la fin du système de gestion des migrations irrégulières et de détention arbitraire des réfugiés et des migrants en Libye. La taxe GAFA, imaginée par la France pour empêcher les géants du web d'échapper à l'impôt, continue d'alimenter la colère de Donald Trump et des États-Unis. Et ils ne sont pas prêts de mettre de l'eau dans leur vin, littéralement, puisque le président américain annonce en représailles des taxes contre le vin français. Il dénonce, je cite, la stupidité d'Emmanuel Macron et assure que seul les États-Unis sont habilités à taxer des entreprises américaines. Ce sera l'une des grandes questions de la rentrée pour le gouvernement français. Comment boucler le futur budget 2020 ? Édouard Philippe, Gérald Darmanin, Agnès Buzyn se sont vus aujourd'hui pour parler argent avec une équation simple à résumer mais difficile à résoudre. Pour être dans les clous, il manque 3 milliards d'euros et pour les trouver, Laurent Kramer, il va falloir faire des choix.
Oui, plusieurs pistes sont aujourd'hui à l'étude pour boucler ce budget 2020. Les tout derniers milliards du budget sont souvent les plus difficiles à arbitrer, souligne une source à Bercy. Sur la table, plusieurs options. Rogner tout d'abord du côté des comptes de la sécurité sociale, raboter ce qui reste, par exemple, d'allocations familiales pour les ménages les plus aisés ou encore baisser les indemnités journalières des arrêts maladie aujourd'hui bonifiés pour les parents ayant 3 enfants. Les entreprises seraient alors mises à contribution. Le patronat s'attend à payer une bonne partie de ces 3 milliards d'euros d'économies à trouver d'ici la fin de l'été. Des parlementaires souhaitent également que le gouvernement revienne sur les baisses de charges patronales accordées jusqu'ici aux entreprises qui seraient inefficaces au-delà d'une fois et demie le SMIC. Ce dispositif d'exonération de charges coûte à lui seul 4 milliards d'euros à l'État. Aucune piste à l'étude n'est politiquement facile à faire accepter. Le chiffre de la croissance française au deuxième trimestre est donc attendu avec impatience mardi prochain. Bercy espère une bonne nouvelle pour réévaluer à la hausse les rentrées fiscales et les prévisions de croissance pour 2020.
Merci Laurent Kramer. C'est un autre triste bilan de la canicule et de la sécheresse conjuguée ces derniers jours. Plus de 6500 hectares de terres agricoles et de forêts sont partis en fumée hier, selon un bilan national de la sécurité civile tout juste publié. Au total, 267 feux de végétation, 10 feux de forêt en moins de 24 heures. 4000 pompiers ont été mobilisés sur cette seule journée. Comme chaque vendredi, c'est l'heure de la prescription culturelle de France Inter avec du cinéma aujourd'hui. Un documentaire musical intitulé Daniel Darc, Pieces of My Life, réalisé par Marc Dufaux et Thierry Villeneuve, une plongée dans l'univers torturé et poétique du chanteur punk mort il y a 6 ans, Alexis Demeyer.
Daniel Darc en plan fixe qui s'injecte de l'héroïne dans le bras. C'est l'une des séquences choc de ce documentaire d'1h40 dans lequel l'autodestruction du chanteur occupe une place centrale. À ses débuts, Daniel Darc allait jusqu'à s'ouvrir les veines sur scène.
Moi ça me fait marrer parce qu'il y a tellement de gens qui ont essayé de savoir pourquoi alors que moi-même je me demande vraiment. J'avais un 14 dans la poche parce que j'aimais bien me bastonner, tant qu'à faire c'était bien efficace. Puis comme je suis assez fan de Peking Pa, j'ai fait les artères. pour voir. J'ai éclaboussé, il y a le pompier qui m'a dit « je t'amène à l'hôpital » et il s'est trouvé mal. C'était marrant.
Le film regorge de nombreuses et précieuses images d'archives, notamment dans le Paris Canaille des années 80. On découvre aussi Daniel Darc dans ses phases de création musicale.
Je mets la radio. Comme dit ma mère, ça fait une présence.
Le documentaire évoque les passages par la case prison, mais surtout par la case désintoxication. Au gré de ses abstinences et de ses rechutes, le corps, le visage et la voix de Daniel Darc se transforment.
J'aimerais bien pouvoir écrire des belles chansons d'amour, tout ça, machin. Super, tout est beau et tout ça, mais j'arrive pas, moi. Parce que c'est pas ma vie, quoi. Parce que ma vie personnelle, c'est de la merde, quoi.
De ses premiers pas avec le groupe Taxi Girl à la fin des années 70 jusqu'à sa mort une nuit de février 2013, le documentaire de Dufaux et Villeneuve nous plonge dans le quotidien décidément très dark de Daniel Darc.
Les amis réussissent.
La voix sombre de Daniel Darc, Pieces of My Life, des morceaux de ma vie, c'est dans les salles obscures depuis mercredi dernier. Allez, on passe au journal du tour. Pas de vainqueur d'étape, un maillot jaune qui change d'épaule, l'abandon de Thibaut Pinot. Décidément, on était à deux doigts des vagues de sauterelles et de la pluie de grenouilles aujourd'hui. Bonsoir Fabrice Rigobert.
Oui, bonsoir.
Une étape très particulière. Hein.
C'est le moins que l'on puisse dire, la 19e étape du Tour de France a livré le scénario le plus inattendu possible. Une route recouverte par un épais tapis de grêle entre Val d'Isère et Tignes, une coulée de boue qui barre la route du Tour. C'est la météo qui a remporté cette 19e étape du Tour de France. Le peloton a posé le pied à terre à Val d'Isère, sous les yeux ébahis d'Annie qui ne s'attendait pas à un tel spectacle, voir les coureurs stopper avant de remonter dans les voitures des directeurs sportifs.
Stop. Avant l'ascension donc de l'Iseran, ici c'était blanc de grêle. Je plains les gentilles qui attendaient plein de monde et c'est nous qui récoltons. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas vu la descente de tous nos coureurs. Mais bon, ils sont là, on en profite, c'est génial.
Impossible de laisser la course se poursuivre dans des conditions de sécurité optimales. Les organisateurs et les commissaires de l'Union Cycliste Internationale ont pris la bonne décision en décidant d'interrompre la course pour Dave Brailsford, le manager de la formation Ineos.
La route disparaît avec les gens qui partent en courant, avec le côté de montagne qui est descendu. Ça, c'est rien à voir avec le sport. Ça, c'est vraiment un cas d'urgence, quoi. Et là, il faut arrêter.
Aucun vainqueur d'étape n'a été désigné aujourd'hui. Seuls les temps au sommet de l'Iseran ont été retenus. Et cela tombe bien pour Ineos qui récupère le maillot jaune avec Egan Bernal. 45 secondes d'avance sur Alaphilippe. Un peu plus d'une minute sur Geraint Thomas, troisième. Bernal qui a attaqué à 5 km du sommet où il est passé en tête devant Simon Yates et Warren Barguil, rescapé de l'échappée du jour. Puis le groupe Thomas et Julien Alaphilippe à plus de 2 minutes. Julien Alaphilippe agacé d'avoir perdu sa première place mais battu par plus fort.
Ouais, j'y m'y attendais. J'ai donné le maximum. Voilà. Je peux pas avoir de regrets. J'ai tout donné comme je l'avais dit, quoi. J'ai donné le maximum et j'ai été battu par plus fort. C'est comme ça. C'était déjà un rêve de le porter. J'ai poursuivi le rêve longtemps, bien plus longtemps que ce que j'avais imaginé. Et voilà. C'est comme ça.
Une cérémonie protocolaire a tout de même été organisée pour le plus grand plaisir des supporters colombiens. Egan Bernal a reçu son premier maillot jaune en larmes.
La verdad no sé describirlo.
Je sais pas quoi vous dire. C'est tellement d'émotions. Je n'arrête pas de pleurer.
Solo sé que tengo ganas de llorar. Nada, super feliz, contento.
Je suis super content. Après demain sera un jour très important et j'espère bien sûr pouvoir défendre mon maillot jaune jusqu'à Paris.
Hasta Paris.
Egan Bernal, nouveau maillot jaune de ce Tour de France Solier.
Alors Fabrice, l'autre fait du jour, on l'a beaucoup dit, c'est l'abandon de Thibaut Pinot.
Au kilomètre 36 de cette étape, blessé à la cuisse gauche depuis avant-hier, Thibaut Pinot s'est arrêté en larmes à côté de son coéquipier William Bonnet, le vainqueur du Tourmalet, cinquième du classement général à 1 minute 50, en larmes de nouveau ce soir aux côtés de Fanny Lechevestrier.
On a vécu une belle aventure tous ensemble, et ouais, c'est normal que je vois là. Hier j'ai serré les dents comme je pouvais, et voilà, ce matin j'avais très mal. Et puis, ça n'a pas tenu, quoi. Je sentais que depuis dimanche, dans les Pyrénées, j'étais capable de le faire. Et sans ça, je suis sûr que vous l'aurez fait. J'en ai été convaincu, rien ne peut m'arriver. Mais on ne le saura jamais.
Quatrième abandon en cette participation pour le valeureux Thibaut Pinot. Le Tour poursuit sa route demain avec une dernière étape de montagne. 130 km entre Albertville et Val Thorens. Dernière arrivée au sommet à 2365 mètres d'altitude.
Merci Fabrice Rigobert. On vous laisse vous remettre de toutes ces émotions de la journée. On passe à la route avec vous, Manon Vautier-Chollet. Ça bouchonne un petit peu dans le sens des départs.
Oui, c'est ça. Encore quelques ralentissements ce soir, notamment sur l'A10 où la route est très chargée en amont d'Orléans, alors qu'un accident s'est produit il y a une petite heure après la sortie 11 à Lainville et a un peu tout bouleversé sur la route où ça se passait plutôt bien. Donc encore des gros ralentissements à cet endroit. Sur l'A10 toujours, il faut compter une heure et demie entre Saintes et Bordeaux. C'est une demi-heure de plus que d'habitude. Sur l'A7 maintenant, l'autoroute du Soleil, le trafic est toujours ralenti à partir de Lyon en direction de Marseille ce soir. Il faut compter par exemple 1h15 de route pour rejoindre Valence, c'est deux fois plus que d'habitude, mais la densité du trafic est quand même en train de diminuer, même si c'est un répit de courte durée, hein, puisque Bison Futé classe la journée de demain rouge dans le sens des départs. Bison Futé qui vous conseille d'ailleurs d'éviter absolument les grandes métropoles entre 14h et 20h pour ne pas se retrouver coincé dans les bouchons.
Manon Vautier-Cholet, OPC Mobilité de Radio France.
La météo avec les volets roulants Velux, la protection efficace en cas de forte chaleur ou d'orage, fabriquée en France. À retrouver sur velux.fr.
Et la météo, c'est avec vous, Sébastien Léas. Attention aux orages et aux pluies.
Oui, après la vague de chaleur, ce sont des vagues orageuses qui nous attendent. Plus précisément, deux vagues d'orages localement forts. Une ce soir et cette nuit qui glissera du Massif central vers la Bourgogne et Rhône-Alpes, qui donne d'ailleurs lieu à une vigilance orange sur 16 départements. Et puis une autre est attendue demain avec la progression de la perturbation pluvieuse qui touche actuellement l'ouest du pays. La journée de demain s'annonce d'ailleurs plutôt agitée, avec des averses régulières sur la majeure partie de l'Hexagone et même des orages porteurs de grêle en Provence et en Alsace. Les pluies seront plus continues et surtout soutenues sur le centre-est et des cumuls abondants sont à craindre, en particulier vers l'Ain, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. Des inondations ou des coulées de boue seront d'ailleurs possibles par endroits. Côté température, il fera plutôt frais sur la moitié ouest avec 19 à 24 degrés et sur l'est, les températures seront plus respirables qu'aujourd'hui avec 24 à 31 degrés.
Mais ce sera plus calme dimanche.
Oui, alors la matinée sera encore assez pluvieuse sur la façade est. La perturbation va progressivement quitter le pays. Les nuages resteront prédominants au nord de la Seine, en Bourgogne et sur les Alpes du Sud, mais on trouvera de plus en plus de belles éclaircies en allant vers l'ouest. Autour du golfe du Lion, le Mistral et la Tramontane favoriseront même un temps encore plus ensoleillé. En revanche, le vent qui soufflera en Méditerranée va engendrer un temps nuageux sur la façade ouest de la Corse, avec de nombreuses averses localement orageuses, et les températures seront assez homogènes et le plus souvent sous les valeurs de saison, avec 20 à 25 degrés en général et 24 à 29 degrés sur les régions méditerranéennes.
Merci Sébastien Léas de Météo France.